Chapitre 74, la répartition des responsabilités. Le Seigneur a organisé les choses de manière que des frères puissent assister comme délégués à nos assemblées de fédération. Ceux-ci doivent être des hommes éprouvés, et mériter la confiance. Leur choix est très important, car ce sont eux qui élaboreront des plans pour faire progresser l'œuvre de Dieu. Il faut donc qu'ils soient intelligents et capables de raisonner de la cause à l'effet. Le lendemain, lisons-nous dans l'Exode, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Au premier chapitre des Actes, on trouve aussi des instructions au sujet des hommes qui doivent être choisis pour porter dans l'Église des responsabilités. La défection de Judas avait laissé une place vacante dans les rangs des apôtres, et il fallait lui trouver un remplaçant. Pierre s'exprime ainsi à ce sujet. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Sagesse dans le choix des dirigeants. Ces passages nous apprennent que le Seigneur a les hommes nécessaires pour occuper certaines positions. Il nous montrera comment agir avec circonspection, et choisir judicieusement des frères qui ne trahiront pas la confiance. Si, au temps du Christ, il fallait que les croyants fussent prudents au sujet de ceux qui devaient assumer des responsabilités, agissons, nous aussi, avec beaucoup de sagesse. Présentons au Seigneur chaque cas, et demandons-lui avec ferveur de choisir à notre place. Le Dieu du ciel fait appel à des hommes expérimentés pour porter dans sa cause des responsabilités. Ces hommes doivent avoir une influence toute particulière. Si l'on accordait à tous le pouvoir qui est donné à ses frères, ce serait catastrophique. Il ne faut pas que ceux qui sont choisis pour occuper des postes de confiance dans la cause de Dieu se montrent imprudents, irréfléchis, égoïstes, pleins de confiance en eux-mêmes. Leur exemple et leur influence ne doivent jamais encourager le mal. Le Seigneur n'a donné à qui que ce soit, homme ou femme, la liberté d'avancer des idées qui enlèveraient à l'œuvre son caractère sacré et y introduiraient quelque chose de vulgaire. Que cette œuvre devienne de plus en plus sacrée aux yeux de son peuple. Faisons ressortir constamment le caractère élevé de la vérité. Que ceux qui ont la charge de surveiller le travail dans nos institutions mettent toujours en évidence la volonté de Dieu. La bonne marche de l'œuvre dépend de la fidélité des hommes désignés pour faire exécuter cette volonté dans les églises. Il faut confier à certains frères des charges qui leur permettront d'acquérir une plus grande expérience, non en ce qui concerne le moi, mais dans les choses de Dieu, et une connaissance plus étendue du caractère du Christ. Mieux ils connaîtront le Sauveur, plus ils seront à même de le représenter. Il faut qu'ils écoutent sa voix, et prennent garde à ses paroles. Un avertissement. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Soyons toujours doux, humbles et compatissants, mais en même temps fermes comme le roc en ce qui concerne les enseignements du Christ. Suivons-les strictement. N'en perdons pas de vue une seule parole, car la vérité subsistera éternellement. N'accordons de crédit à aucun mensonge, à aucune prétention injustifiée. Ce serait risquer la vie éternelle. Marchons dans le droit sentier, de peur de nous égarer. Lorsqu'un aveugle s'éloigne du bon chemin, qui faut-il blâmer, sinon ceux qui l'ont mal conduit? Ne méprisons pas le conseil de celui dont les paroles nous assurent la vie éternelle pour nous attacher aux œuvres trompeuses du Père du mensonge. J'ai quelque chose à dire à tous ceux qui croient pouvoir fréquenter sans danger notre école de Battle Creek. Le Seigneur a anéanti dans cette ville deux de nos plus grandes institutions, et il nous a donné avertissement sur avertissement dans le genre de ceux qu'il avait prodigué autrefois à Bethsaïda et à Capharnaüm. Prenons garde à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce serait péché que de s'en détourner. Le Sauveur supplie les égarés de revenir à lui. L'homme qui s'humilie et confesse ses péchés en recevra le pardon. Ses transgressions seront effacées. Mais celui qui croit que ce serait une faiblesse de le faire ne pourra être pardonné, et le Christ ne saurait être son Rédempteur. Que fera-t-il au jour du jugement ? Alors que les livres seront ouverts et que chacun sera jugé d'après ce qui y est écrit? Relisons attentivement le cinquième chapitre de l'Apocalypse. Il est très important pour ceux qui ont aujourd'hui une part dans l'œuvre de Dieu. Quelques-uns se laissent séduire. Ils ne se rendent pas compte de ce qui va se produire sur la terre. Ceux dont l'esprit est obscurci au sujet de la nature du péché seront cruellement déçus. Si un changement radical ne se produit chez eux, ils seront trouvés trop légers lorsque le Seigneur jugera les enfants des hommes. Ayant transgressé la loi, rompu l'alliance éternelle, ils recevront selon leurs œuvres. Je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Dans ces passages, deux catégories de personnes nous sont présentées. Les unes se sont laissées séduire et se sont jointes aux ennemis du Seigneur. Elles ont méconnu les messages qui leur avaient été adressés, et se sont drapées dans leur propre justice. À leurs yeux, le péché n'était pas odieux. Elles ont enseigné des mensonges au lieu de la vérité, et égaré beaucoup d'âmes. Nous devons prendre garde à nous-mêmes, car nous avons reçu avertissement sur avertissement. Ne voyons-nous pas l'accomplissement des prédictions du Christ contenues au chapitre 21 de Luc ? Combien étudient ces paroles ? Combien se séduisent eux-mêmes et se privent des bénédictions réservées à ceux qui croient et qui obéissent ? Le temps de grâce se prolonge, et l'Évangile nous offre encore l'espérance du salut. Repentons-nous et convertissons-nous. Abandonnons nos péchés, afin qu'ils soient effacés. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'absentissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ne prêterons-nous aucune attention à ces paroles ? Alors que la voix de la miséricorde se fait encore entendre, n'allons-nous pas nous hâter de nous repentir ? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.